sur les chemins de la création. Une émission proposée par Clémentine Savine.
Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Il y a ceux qui n'apportent rien du tout. Il y a ceux qui apportent seulement leur métier. Et puis il y a ceux qui apportent leur propre univers.
On exprime des choses que les gens auraient du mal à exprimer de cette façon aussi intense.
Comment ils ont fait pour arriver à faire ça?
On crée, on transforme, on modifie, on jette tout, on recommence.
Ça, c'est la spécialité des gauchos bobos. Ils font de la merde et ils te disent que c'est de l'art.
C'est ça, être artiste.
Ça met une pression assez conséquente.
C'est quelqu'un qui sort quelque chose à partir de rien.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission sur les chemins de la création. Et aujourd'hui, je suis dans les studios de Divergence FM, en bonne compagnie, puisque je suis avec Élise et Florence.
Bonjour.
Donc nous sommes ensemble, comme d'habitude, pour parler de ce qu'on préfère, de ce que je préfère, la création. Et on va voir si c'est aussi ce que vous préférez. Allez, on va commencer par se présenter. Qui êtes-vous ?
Alors, moi, du coup, c'est Élise. Je suis jeune metteuse en scène, tout juste sortie du Conservatoire de Montpellier, mais en même temps, pas vraiment, parce qu'on a une création qui se profile au Conservatoire, mais qui n'est, il me semble, pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui.
Voilà. C'est quand même bienvenu de le dire. Tout est bienvenu. Mmh. Et puis ça parle de création, donc je pense que t'es pile poil dedans. Yeah. Merci. Donc toi, t'es plus mise en scène, du coup.
C'est ça. Mise en scène et également marionnette. Mais c'est un autre volet de ma création.
Waouh, super. Et toi, Florence ?
Et moi, je suis comédienne, sortante du conservatoire aussi. Et j'entame ma première année de vraie professionnalisation où je joue au sein d'une compagnie où je suis très axée théâtre jeunesse et la portée politique que ça apporte. Et à côté, on a le projet où on jouera en juillet, en août 2026. Donc venez nous voir. Ça sera dans les communes aux alentours de Montpellier. Donc on pourra transmettre les informations. Et on jouera le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare qu'on va réinterpréter avec la promotion, et on sera sept comédiens-comédiennes, et il y aura un musicien qui jouera en live de la musique traditionnelle.
Du coup, toi, tu joues comme comédienne dans cette pièce ?
C'est ça, exactement.
Et toi ?
Moi, je joue également comme comédienne.
Tu joues aussi, ok.
Ouais. Et je fais un peu d'assistance à la mise en scène sur ce projet-là.
Ok.
Et de la marionnette. Tout se recoupe.
Waouh, les casquettes. Quelle casquette je dégaine aujourd'hui ?
Exact.
La violette, un peu de rose.
Qu'est-ce que j'ai pensé à prendre ? Qui je suis aujourd'hui ? C'est vraiment Martin Matin.
Trop bien. Allez, et bien, moi j'aime bien savoir remonter à la source toujours et je m'interroge toujours sur quand est-ce que vous arrivez à vous rappeler, à vous souvenir de quand est-ce que la création vous attrape, quand est-ce que ça rentre dans vos vies respectivement et de quelle manière, sous quelle forme, voilà.
Oh waouh, je crois que ça a toujours été là plus ou moins, mais c'est toujours à divers degrés. Étant donné que je suis quelqu'un de très manuel, j'ai toujours occupé mon temps en faisant des choses avec les mains. Je, par exemple, ne peux pas regarder un film sans m'occuper, broder quelque chose, construire quelque chose. Donc c'est un peu quelque chose qui guide ma vie, on va dire. Et après, ça s'est canalisé au niveau du théâtre, sur le travail au plateau, parce que ça permet d'avoir plein de casquettes et de toujours pouvoir alterner, faire des choses différentes, construire.
Et du coup, c'est venu pour occuper tes mains.
Ouais. Occuper mes mains, occuper ma tête. Ouais.
Toujours, enfin, la première chose que t'as fait avec tes mains, comme ça tu saurais, d'origami, je sais pas, de la pâte
non,
à modeler.
Non, ça a commencé avec le dessin tout basiquement,
dessin. Okay.
beaucoup de dessins, et puis un jour j'ai découvert les outils, et ça c'est super.
La révolution industrielle.
La révolution, la perceuse visseuse, qui permet de faire des choses toujours plus grandes, toujours plus immersives, et après la marionnette apporte ce côté énormément de construction. Beaucoup de fun créatif, puis l'interprétation qui permet de continuer de faire vivre la création en objet.
Et alors, juste un petit aparté, parce que ça m'intéresse là, ce que tu dis par rapport à la marionnette.
Ouais.
Est-ce que quand tu crées une marionnette, tu la crées, puis après tu vois ce que tu peux jouer avec. Ou est-ce que tu lui mets déjà des intentions, des choses
Ça dépend vraiment.
Okay.
Parfois, je peux partir d'un texte, d'un poème, et imaginer la marionnette par rapport à ça. Et d'autres fois, et là c'est souvent sur les projets plus compliqués, plus intenses, où je vais plus me questionner sur la façon de fabriquer la marionnette et de la faire bouger, pour ensuite trouver un texte, une histoire, voire même l'écrire moi-même, pour que ça corresponde à la marionnette et sa façon d'être au plateau, donc de se mouvoir, de regarder la tête qu'elle va avoir.
Ok. Il n'y a pas une seule formule, quoi.
C'est ça. Ça varie.
Super, merci.
Merci.
Et toi, Florence, est-ce que tu saurais nous dire quand est-ce que la création entre dans ta vie ?
Oui, moi, c'est entré assez jeune aussi. C'est un moyen d'expression parce que j'étais, une enfant qui a un peu dans tous les sens. Et le théâtre, ça a été un vrai lieu pour moi de rencontre sociale et de bien-être et de lâcher prise sur qui j'étais, sur ma différence, etc. Et après, c'est devenu un vrai lieu de résistance et de pouvoir dire des choses qui étaient importantes selon moi et où j'avais pas l'espace de les dire. Et c'est devenu un besoin, je dirais, presque vital pour lâcher des choses qui étaient en moi et qui sont en moi. Et je trouve que... Comment dire que c'est un espace où c'est vraiment nécessaire et politique pour moi de l'habiter. J'ai pas les mots pour dire, mais c'est pour dire que je crois que sans le théâtre, je ne sais pas comment j'aurais réussi à lâcher tout ce que j'avais à lâcher. Voilà. C'est...
Super.
Je sais pas si... Voilà.
Carrément, c'est très intéressant ce que ça te fait écho, Élise.
Ça, en fait, le théâtre, c'est vraiment une espèce de bulle sur laquelle on peut s'exprimer, mais d'une façon différente. Parce que c'est pas forcément nos mots, mais c'est nos corps, nos gestes, nos façons d'être qui peuvent se muer dans un personnage, dans une histoire. Et ça permet de se libérer de tellement de choses. C'est très, très thérapeutique.
C'est la catharsis,
en quelque sorte.
Alors, allez, on va avancer dans ce processus de création. Et je ne sais pas, qu'est-ce que ce serait pour vous une journée type de création, par exemple ? Est-ce que vous avez un quotidien, un rythme de création ? Est-ce que c'est complètement anarchique, freestyle ? Et comment ça marche ? Est-ce que, voilà, y a plein de formules différentes, mais j'aimerais savoir quelle est la vôtre.
Alors ça peut dépendre de où on en est sur l'étape de création, parce qu'un spectacle, ça se construit en plusieurs temps. On démarre souvent en ayant un texte, ou en ayant des acteurs, une équipe, un projet, et on démarre en étant beaucoup, comme on dit, à la table. Donc on parle du texte, de ce qu'on entrevoit dessus, nos envies politiques, nos idées diverses et variées, nos inspirations. Et après, dans un second temps, on commence à passer au plateau. Et c'est là où je pense que la journée type est le plus fun. Déjà, on démarre avec un café. Beaucoup de café. Toujours du café. Puis, on en vient aux diverses scènes qu'on doit travailler. Et après, on se lance au plateau. On fait souvent plein d'erreurs, plein d'allers-retours, de retravail. On mange. Et on retravaille les mêmes scènes, souvent. Et... ça se fait vraiment par étapes. C'est un peu comme sculpter quelque chose. On démarre de quelque chose de brut, et on enlève des couches encore et encore, puis on affine. Donc sur les dernières semaines de la création d'un spectacle, et même encore après quand il est en train de se jouer, on continue d'affiner encore et encore pour que ce soit toujours en mouvement, jamais fixe.
Et je crois que ce qui est important aussi, c'est qu'on est vraiment un groupe et qu'on dépend vachement les uns des autres et que chacun apporte sa patte, sa pierre à l'édifice et que avant tout, le théâtre, en tout cas, le théâtre, avant tout, c'est d'être un groupe et de se nourrir chacun, chacune les uns des autres. Et c'est ça qui est vraiment chouette dans ce qu'on fait parce que ça garde un lien social un peu constant. Et je crois qu'il y a, ouais, il y a pas de journée type, mais c'est avant tout beaucoup de partage, beaucoup de dialogue, beaucoup de rêverie, comment on imagine le spectacle qui va influencer un petit peu le monde de demain, comment est-ce qu'on a nos utopies, nos rêves, et comment on se les partage. Et c'est ça qui est beau, parce qu'on voit qu'on est tous passionnés et que ça, c'est quelque chose qui est très profond en nous. Et comme tu disais, chacun apporte sa petite casquette, que ça soit marionnette, musique, chant, danse, masque. On s'amuse comme des enfants.
Trop bien. Le groupe, il est nécessaire dans votre processus de création. Même, je dirais même que peut-être ça part du groupe.
Ça peut partir du groupe. Souvent, ça part du groupe. C'est pour ça qu'on a des compagnies qui se structurent ou ça reste avec des gens qui sont là régulièrement. Mais c'est surtout que le groupe est nécessaire dans la qualité du spectacle qui se produit. Ça se sent quand on est spectateur. Si sur scène, les acteurs n'ont pas forcément de lien ou que ça a été, enfin que la relation entre les acteurs n'a pas forcément été prise en compte dans le processus créatif, c'est dur de juste commander quelque chose artistiquement sans qu'il y ait un travail du groupe, des liens entre eux et de compréhension des uns des autres. Et c'est d'autant plus vrai en fonction des sujets qu'on aborde.
On sent vite les individualités. On peut vite les sentir sur un plateau.
Et en parlant d'individualité, par exemple, parce que je sais que des fois, il y a un texte, une commande très précise, mais ça peut être aussi à ce moment-là, j'aimerais bien que tu nous fasses un truc de musique pour faire telle transition, tel machin. du coup, en tant que qu'individu, vous devez parfois créer un truc dans votre coin et proposer pour le spectacle. Donc, comment ça marche quand vous êtes en tant qu'individu comme ça et que, par exemple, tu dois écrire une petite scène pour faire avancer le spectacle, par exemple.
Du temps seul, ça nécessite de se remettre dans sa bulle. Et peut-être pas mal d'écriture et de retrouver le plaisir. Qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous amuse, qu'est-ce qu'on a envie de montrer. Et essayer de le prendre d'un endroit de plaisir plutôt que d'un autre endroit, je pense, pour pouvoir le recréer, pour pouvoir que ça devienne souple et respirer dedans. Et les inspirations, c'est une très bonne question. Ça peut être le quotidien, ça peut être les gens, les choses qu'on voit.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attrape comme ça et tu dis, ah, oh, ça, je veux le garder, je veux le mettre dedans. Enfin,
oui.
C'est complexe, hein. C'est très large, j'en ai bien conscience. Mais est-ce que, ou un exemple.
Ah, bah oui, par exemple, j'ai un très bon exemple. Élise et moi, Élise en mise en scène et moi en jeu, en ce moment, on prépare le Théâtre National de Strasbourg, qui est une école nationale. Et il nous demande un 7 minutes, qui est un passage, enfin, en tout cas, en tant que comédienne, qui est un passage assez long à faire. Voilà. Et on a plein de possibilités. Ça peut être du jeu masqué, ça peut être de l'autofiction, etc. Et en ce moment, moi, je me base sur des femmes qui m'inspirent beaucoup. Et là, en ce moment, j'ai une couleur en tête, c'est rouge. Et du coup, je vais me baser sur des écrivaines, des musiciennes qui m'inspirent. Et qu'est-ce que ça fait en moi, physiquement? Et qu'est-ce que j'ai envie de retranscrire, aussi artistiquement que politiquement? Et du coup, c'est assez flou au début, je dirais. Et je crois qu'il faut se faire confiance dans le processus de « Ok, c'est flou, mais j'avance petit à petit, un pas après l'autre. »
Tu viens piocher. « Ah, je sens une couleur. Ouais. Ok, je sens une telle énergie. Ok. Ah, tiens, tel texte, c'est intéressant. Est-ce que je peux pas en faire quelque chose ?» Et ça se construit de petits détails en détails, comme ça.
Exactement.
C'est ça, de détail en détail. Et après, ça s'affine quand on arrive au plateau et que surtout qu'on le présente devant d'autres personnes. Parce que c'est ça aussi qui est beau avec le théâtre, c'est qu'on peut difficilement en faire tout seul dans notre coin sans qu'il y ait quelqu'un pour regarder. Nous, souvent, sur ces fameuses scènes qu'on travaille, il y a des regards extérieurs, donc des gens qui sont là pour observer, nous dire bah, « là, attention, t'es peut-être un peu trop dans ce coin du plateau » ou « à tel moment, t'entends pas assez ». Et ça permet vraiment de se construire avec les autres, par rapport aux autres, tout en ayant du coup notre objet artistique qu'on a bien préparé de notre côté, dans lequel on prend beaucoup de plaisir et où ça nous correspond. Et ça permet de se déployer vraiment en tant qu'artiste.
Super. Du coup, comment ça marche quand tu as dit qu'il y avait des choses qui t'attrapaient physiquement aussi? Comment ça marche physiquement? Est-ce que... tu saurais décortiquer par où ça passe? Est-ce que, je sais pas, c'est aussi un domaine très large, mais comment il est ton corps quand tu crées, par exemple?
Alors moi, en ce moment-là, c'est pas mal le ventre. C'est parce que c'est quelque chose de profond qu'il faut aller chercher en soi. Et je dirais le fameux truc quand on dit ça vient des tripes et tout. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que le corps retient et qu'il a besoin de sortir. Et en fait, ça travaille nuit et jour, entre guillemets, quand on est dedans. Et ça passe un peu partout, mais en tout cas, moi, en ce moment, voilà, je dirais que c'est concentré pas mal par le ventre, parce que c'est quelque chose qui est très fort, qui est très vital et qui a besoin de sortir quoi, maintenant, et je sens que c'est le moment, et machin. Mais des fois, ça va être... La poitrine, par exemple, ça peut avoir besoin de plus d'ouverture, et du coup, ça va passer peut-être par un truc plus corporel, par de la danse. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à ne pas être dans le cérébral et à ce que ça descende. Et je crois que c'est encore plus organique quand ça vient du corps. Mais, enfin, Élise, je ne sais pas toi pour toi.
Ouais, ce serait dur de le situer véritablement parce que c'est. Quand on sent qu'on est au bon endroit, comme on dit. C'est un peu comme si on se faisait dépasser par nos propres émotions. Il n'y a plus de... En fait, on ne prévoit plus les gestes qu'on va faire pour correspondre à un personnage. Ça va être parfaitement naturel. Et c'est le genre de moment où on se sent vraiment aligné avec ce qu'on essaye d'exprimer sur scène. C'est très agréable.
Trop chouette. Et c'est quoi être aligné ?
Oh. Bah, c'est vraiment ce moment où on n'est pas en train de se dire « Là, je suis en train de jouer un personnage. » On sent qu'il y a une émotion qui nous emporte, on sait où on est, on sait avec qui on joue, parce que c'est ça aussi qui est important. On joue pas seul, donc on joue soit avec les gens qui nous regardent, soit avec des partenaires de jeu. Et quand on est vraiment avec eux, qu'on sait où ils sont, qu'on n'annule pas leur présence en étant un petit train sur ses rails qui doit absolument dire son texte, faire sa scène, puis ressortir du plateau, ça nous permet de prendre toute une ampleur qui... Ouais, ça nous lie les uns les autres et ça nous relie aussi aux spectateurs et ça nous permet de mieux même nous-mêmes comprendre ce qu'on essaye de raconter en disant tel texte, en faisant tel mouvement.
Et c'est là où le travail et la technique auparavant sont nécessaires pour arriver à ça, où on sait qu'on a nos rails, on a bien bossé et peut-être qu'à ce moment-là, une fois qu'on est sécu, enfin, il y a quand même une forme de peut-être d'endroit sécur où ok, je suis dans cet endroit-là, mon texte, je le connais par cœur, machin, je sais que tel déplacement à cet endroit-là, il est nécessaire parce que blablabla. C'est peut-être dans ce moment-là où ça nous libère, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est la technique, elle nous amène à ça, peut-être.
Ouais, c'est sûr qu'on a besoin de base pour pouvoir s'en libérer après. Justement, ce que disait Élise, c'est qu'on dépend vachement de l'autre, en fait. Et que 90% du jeu va dépendre de la relation avec l'autre. Et que du coup, ça va changer aussi en fonction des jours. Peut-être qu'on se déplacera pas pareil, peut-être qu'on... Et c'est ça qui est beau, c'est que c'est toujours en travail. En fait, il n'y a jamais un truc figé, construit, ça évolue tout le temps parce que c'est de l'humain et en fait on reçoit en tant que moi Florence comédienne, même si j'interprète ce rôle là, c'est qu'est-ce que ces mots me font et comment moi je peux apporter de moi sur le plateau. Et je pense que on voit tout de suite quand c'est sur des rails et que ok, je dois me déplacer là, donc je me déplace là, et on perd tout le vivant, en fait, je trouve.
Voilà. Donc il faut de la technique, mais du vivant.
Ouais, ouais. Surtout.
Du coup, travail ou talent ?
Surtout travail. Surtout travail.
Le talent, ça peut tellement dépendre de plein de choses. En fait, vu qu'on travaille aussi avec nos émotions, notre façon d'être, d'un jour sur l'autre, ça peut être complètement différent. Donc, il n'y a pas de... J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de talent. Il y a juste l'envie de s'y lancer. Et à la rigueur, la capacité à lâcher prise, si on veut nommer le talent au niveau du théâtre, pour moi, c'est la capacité à lâcher prise et à se lancer dans les choses. Et ça permet le travail.
Être à l'instant présent.
Mmh. Exact. Mmh.
Carrément. Et est-ce que, du coup, il y a des grands thèmes ou des choses qui vous inspirent, des thèmes qui vous inspirent et qui vous permettent de créer quelque chose ?
Ouais, carrément. Pour moi, c'est principalement travailler sur toutes les questions de la domination, Je trouve qu'on est dans un monde où on a tendance à apprendre aux gens à dominer, à être au-dessus, à prendre de la hauteur, à toujours pouvoir regarder du dessus. Et notamment, un de mes premiers projets en mise en scène, ça traitait de la domination adulte, donc de l'adultisme, sur les enfants. La façon dont la société va se construire, non pas pour protéger les enfants, mais pour protéger les adultes qui ont des enfants ou qui, dans le pire des cas, font du mal à ces 10 enfants. Voilà, le spectacle s'appelle... Enfin, c'est une réécriture du texte de Lorraine Marx, « Je vis dans une maison qui n'existe pas », et qui cherche à questionner ce très fin lien entre le traumatisme qui peut arriver dans l'enfance et la façon dont, en grandissant, on arrive à s'en détacher, à vivre avec, à grandir avec le poids de notre enfance.
Et donc ça, sur le thème de l'adultisme, c'est un spectacle que tu as mis en scène.
C'est ça.
Ok. Et dans lequel, Florence, tu joues.
Exactement.
C'est ça. Okay. Est-ce que ce thème t'a inspiré? Comment tu te l'es approprié? Est-ce qu'il y a eu un cheminement pour toi par rapport à ce thème-là?
Ça a été très fort, moi, la rencontre avec le texte de Lorraine Marx et la vision d'Élise. J'ai toujours beaucoup aimé le travail d'Élise. Et c'est...
Oh. Il fait des petits cœurs. C'est tellement d'amour. Il y a du love dans le studio.
Oui.
La relation.
Le texte m'a beaucoup touchée et faisait écho à plein de choses. Et donc, pareil, ça m'a vachement traversée, là, pour le coup, corporellement. Et en fait, on n'avait pas grand-chose à faire à part être dans les mots et être entre nous. On était 3 comédiens sur le plateau, comédiens, comédiennes. Et c'était, avec la mise en scène d'Élise, c'était très... c'était beaucoup autour des odeurs, des sons, de la texture avec des draps qu'on devait manipuler, de la lumière aussi projetée. Et du coup, vu que c'était très autour des sens, on pouvait que être dans le présent avec les autres et se faire traverser par le texte. Donc moi, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et c'était une époque où on faisait nos diplômes de fin d'études. Donc moi, je faisais un projet aussi sur du théâtre autour de la jeunesse. Mais c'était, moi, du coup, c'était plus axé théâtre jeunesse que qui parlait de la jeunesse. Et moi aussi, c'était des thèmes sur comment rêver quand on est un enfant dont la vie et la société ne nous a pas donné les armes pour rêver. Et comment est-ce qu'on réinvente le monde de demain? Et moi, je dirais que les thèmes qui me touchent beaucoup, c'est comment recréer des histoires, parce qu'on manque d'histoires qui peuvent nous aider à rêver et à réinventer surtout le monde de demain, parce qu'on sait qu'il y a des catastrophes, on les entend tous les jours, etc. Mais comment, du coup, on s'en empare et comment on crée autre chose? Et comment on libère la parole aussi? Et voilà.
Forme de militantisme par le rêve, quelque part.
Carrément.
C'est carrément ça, hein, en effet. Parce que néanmoins, on a quand même la chance, la possibilité de jouer, de raconter des histoires avec des gens qui viennent voir et écouter ces histoires. C'est une chance folle. Et je trouve ça important de prendre la mesure de ce qu'on peut dire quand on nous écoute, justement. D'avoir cette parole, c'est une chance unique qui est à saisir pour raconter des choses qui sont quand même un peu utiles dans un monde qui a clairement besoin de plein de choses.
C'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes dont vous aimeriez parler, des choses ou d'autres inspirations plus largement possibles? Est-ce qu'il y a des choses qui sont dues au hasard aussi?
Très souvent, pour ma part. Je fonctionne pas mal avec des micmacs, des idées qui se croisent. Donc la plupart du temps, c'est des petits sursauts de hasard que j'ai décidé de suivre. Donc, c'est souvent du hasard pour moi, mais qui se construit après. C'est l'idée de base est hasardeuse.
T'aurais des exemples ou quelque chose à nous raconter?
Un exemple, par exemple, c'est que donc, l'année dernière, Florence parlait des concours d'école de théâtre. L'année dernière, j'avais tenté un concours mise en scène. Et ils nous demandent du coup ces fameuses longues minutes de présentation où on doit faire une scène. Et c'était un peu tombé par le hasard. Donc j'avais juste trouvé un texte, le texte de Lorraine Marx d'ailleurs. J'avais sélectionné un petit morceau et je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais rajouter dessus pour que ça parle de moi, que ça montre mes capacités, me vende un peu. C'est un concours quand même. Et j'ai fini par ajouter de la marionnette dessus. Et vraiment, c'est au hasard d'un moment de scrolling sur Internet où je suis tombée sur une forme de marionnette qu'on dit une marionnette portée, donc qui se sert d'une partie du corps pour faire morceaux de corps à la marionnette. Et je m'en suis servie pour créer une demi-marionnette à taille humaine. Et c'était vraiment le hasard de deux idées qui se croisent.
Trop chouette. Donc elle était où cette marionnette ? Tu l'as sur ton corps ? Enfin, ça marchait comment ?
En gros, la marionnette, c'était tout un torse, une tête et des bras à taille humaine. Donc je ne suis pas une grande personne non plus, mais le torse doit faire... l'entièreté doit faire 60 cm par 70 à peu près. Et mes jambes servaient de jambes à la marionnette. Donc j'étais accroupie et je tenais la marionnette donc, par un petit bâton de manipulation derrière la tête.
Ouais.
Et j'attrapais les poignets avec les mains. Donc ça, c'était visible. Et ça me permettait de la faire bouger, de la faire interpréter un morceau du texte. Et quand je bougeais mes jambes, donc pour marcher sur la scène ou juste donner de la vie au corps de la marionnette, ça... Ouais, ça raconte quelque chose du lien avec l'objet, du lien avec le texte.
Trop bien. Oh, ça me donne envie de voir. Là, j'ai plein d'images, j'ai plein de choses qui me parviennent. Est-ce que toi, Florence, t'as une certaine place au hasard dans ton rapport à la création et dans tes processus ?
Carrément, je pense qu'on doit être un réceptacle de toutes les choses qui nous entourent. Et bah, justement, pour le TNS, j'ai vu là récemment un bouquin d'une femme qui s'appelle Christine Paulowska. Je sais pas si je vais bien prononcer son nom de famille, mais... Et qui s'appelait Écarlate. Et je l'ai vu sur une devanture d'une médiathèque et je l'ai feuilleté et tout de suite, il m'a chopé. Et c'est ça qui m'a donné l'idée, en fait, de mon parcours de 7 minutes. Parce que c'est un texte qui m'a beaucoup parlé. Et je crois que j'essaye, en tout cas, de cultiver ça, cet étonnement un peu quotidien, de se nourrir de tout ce qui est autour de nous. Parce qu'en fait, je pense que c'est ça, c'est amener sa patte à travers les autres, à travers ce que les autres peuvent apporter. Et carrément, est-ce que j'ai un autre exemple concret
Comment il est arrivé à toi, ce texte, du coup ?
Ah, en fait, comment est-ce que je l'ai trouvé ?
Ouais.
J'étais à Paris, c'était il y a quoi, 3 semaines, et je rentre dans une librairie féministe.
Là.
C'est tout récent, ouais. C'est tout récent. Je l'ai lu d'une traite, je l'ai lu en 2 heures, je crois. C'est un petit bouquin. Et en fait, j'étais dans une librairie féministe en face et je me suis dit, allez, elle a l'air chouette et tout. Et bam, devant, je tombe dessus et je feuillette. Et tout de suite, j'achète pas souvent des livres parce que souvent, je veux être archi fan du livre pour pouvoir l'acheter. Et là, je me suis dit, allez, go. Et il me reste en tête.
Mmh.
Et par exemple, autre hasard, je pensais à Virginie Despentes, King Kong Theory. Et Élise me dit, oh, dans les bouquins que j'ai peut-être comme idée pour... pour le deuxième tour, enfin pour le tour du TNS, voilà. Il y avait Despentes dedans, King Kong Theory. Je me suis dit, ah, faut que je chope aussi dans le Despentes. Et enfin, c'est que des trucs comme ça, que des hasards en fait qui arrivent. Pareil, il y a un monologue sur la couleur du rouge, je ne savais pas, qui m'a marqué dans le Pauline Perrat que tu m'as filé.
Ouais.
Et qui parle d'une ado qui devient une bête, une bête monstrueuse à la fin et elle court dans la forêt et tout. Et le texte s'appelle Rouge Dents. Et donc voilà, bref, c'est que des
trucs. Est-ce que tu es consciente que tu as un truc avec le rouge ?
Bah là, c'est en ce moment.
Bah là, ouais. Là, t'es dans le rouge. Rouge est ta couleur.
C'est ça.
Mais dans tous les sens, quand tu dis écarlate, tout fait penser à. Mmh. Oh, c'est marrant, ça.
Ouais.
Trop bien. Trop bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous apporter avant qu'on glisse tout doucement vers la fin ?
Sûrement. Oula, plein de choses. Ouais, allez voir du théâtre.
Ouais.
Oui. N'hésitez pas à aller voir du spectacle vivant. C'est unique, ça peut avoir tellement de formes. C'est pas forcément que dans des lieux fixes. Il y en a en extérieur. Il y a, en fait, faut vraiment se laisser surprendre et pas rester fixé à ce qu'un petit texte peut décrire. Voilà, soyez curieux.
Trop bien, merci. En tout cas, vous m'avez reconnecté. Moi, je suis comédienne, mais en ce moment, ça fait quelques temps que j'ai lâché un peu. Je navigue
vers je sais pas où. Mais là, vous m'avez comment dire ? Vous m'avez rappelé d'où je viens, quelque part. Wow. Ça me fait trop du bien. Wow. Voilà, c'est un truc très personnel.
C'est fort.
Mais merci, c'est chouette.
Merci, à toi.
Merci à toi, vraiment. Allez, on va se faire un dernier petit mot. Un tout petit, vite fait, comme ça. Si vous deviez donner un seul mot pour décrire votre rapport à la création, ce serait quoi ?
Frénétique.
Frénétique, bam ! Il claque en plus celui-là.
Ah ouais, ça claque.
Salvateur. Salvateur. Waouh.
Wow.
Bah, merci beaucoup, Élise et Florence, pour ce moment partagé. Et on a hâte de vous voir, de voir vos spectacles, de vous voir sur scène, de voir vos mises en scène, tout ça, tout ça.
Merci à toi.
Merci beaucoup.
À bientôt sur les chemins de la création.
À bientôt.
Sur les chemins de la création. Une émission proposée par Clémentine Savine.
Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Il y a ceux qui n'apportent rien du tout, il y a ceux qui apportent seulement leur métier, et puis il y a ceux qui apportent leur propre univers.
On exprime des choses que les gens auraient du mal à exprimer de cette façon aussi intense.
Comment ils ont fait pour arriver à faire ça ?
On crée, on transforme, on modifie, on jette tout, on recommence.
Ça, c'est la spécialité des gauchos bobos. Ils font de la merde et ils te disent que c'est de l'art.
C'est ça, être artiste. Ça met une pression assez conséquente.
C'est quelqu'un qui sort quelque chose à partir de rien.